France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est au Mexique que s'arrête l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir, ce que vous entendez là, c'est un narco-corrido, une chanson qui relate les aventures, souvent violentes, des narcotrafiquants, un genre musical qui est encore très en vogue dans l'état du Sinaloa, d'où sont originaires les plus célèbres barons de la drogue. C'est le terrain de Joaquim Guzman, c'est le terrain d'El Chapo, qui connaîtra le mois prochain finalement la sentence du tribunal à New York où il a été déclaré coupable théoriquement de narcotrafic. Bref, on verra ça à ce moment-là. Bonsoir Emmanuel Steele.
Bonsoir Fabienne.
Sauf que El Chapo, donc, même s'il risque la perpétuité aux États-Unis, reste ici, chez lui, ultra populaire. Les narcos font partie intégrante de la société. La culture populaire en est imprégnée, d'où les chansons.
Un narcotrafiquant s'évade de prison et affronte les militaires au lance-grenade. Il meurt et devient une légende dans ce narco-corrido qui relate ses faits et gestes. C'est la famille du défunt qui a commandé cette chanson au groupe Colt, cinq jeunes musiciens qui perpétuent la tradition des narco-corridos à Culiacán, la capitale de cette région du nord du Mexique.
Aquí los corridos es lo que te da trabajo.
Ce genre musical, c'est ce qui nous donne du travail, expliquait Briel, le guitariste de Colt. Lorsque le groupe décroche des contrats pour des fêtes privées, c'est surtout pour jouer des narco-corridos. Mais d'après Briel, contrairement à ce que pensent les Mexicains, ces chansons ne font pas l'apologie du crime ou de la violence.
Como modelos a seguir.
Est-ce qu'on fait des personnages de nos chansons des modèles à suivre? Eh bien, ça dépend de la personne qui l'écoute, de la distance qu'elle est capable de prendre. Mais ici, tout le monde écoute des narco-corridos. Et ce n'est pas parce qu'on écoute cette musique qu'on va empoigner une arme et tuer des gens.
C'est en vain que les autorités mexicaines ont tenté d'interdire les narco-corridos, explique Ana Hilda Mondaca. Cette chercheuse de l'université de Culiacán étudie ce mouvement musical depuis plus de 20 ans. Elle considère les narco-corridos comme les épopées d'aujourd'hui avec une plus grande dose de réel que de fiction.
Il y a des narco-corridos parce qu'il y a du narcotrafic.
Les narco-corridos existent parce que le narcotrafic existe. On ne peut pas les ignorer. Ces chansons racontent tout ce qui survient dans les milieux du narcotrafic. Et de manière explicite. Les narco-corridos ont une valeur en tant que récit, en tant que document. C'est une plongée dans l'univers des cartels et on y trouve toutes les nouvelles qui ne sont pas publiées dans les médias traditionnels.
Los narcos ya tienen muchos fans.
Vulfrano Moreno, alias El Lobito de Sinaloa, est un chanteur vétéran. Après 24 ans de carrière, il a renoncé au narco-corrido car il a vu trop d'artistes se faire assassiner pour leurs chansons. Il considère que les jeunes musiciens d'aujourd'hui, aveuglés par leur fascination pour les narcos, ne sont pas conscients des risques du métier. Mais ce chanteur reconnaît qu'il y a quelques années, il a lui-même accepté une offre qui ne pouvait se refuser.
J'ai enregistré une chanson pour les fils du Chapo. C'était il y a longtemps. Ils m'ont attendu à la fin d'un concert et ils m'ont demandé de leur composer un corrido. Ils m'ont demandé mon prix, j'ai dit $5,000 et l'affaire était conclue. Après, ils m'ont fait passer le message, la chanson leur avait plu. Le titre s'appelle « Les deux héritiers ».
Au Sinaloa, où le narcotrafic est ancré dans la culture locale, la population vit dans une forme de complaisance vis-à-vis du crime organisé. Bien sûr, tout le monde n'écoute pas des narco-corridos ou ne manifeste pas dans les rues de Culiacán pour réclamer la libération d'El Chapo, comme c'était le cas il y a quelques mois. La majorité garde le silence, d'après Ana Hilda Mondaca.
Ici, on a tous, ou presque tous, un voisin narco. Un voisin ou un membre de sa famille ou une connaissance. Tout ce qu'on peut faire, c'est voir, entendre et se taire. Et que l'on accepte ou non, on ne peut pas s'opposer ouvertement.
L'un des endroits les plus visités de Culiacán est la chapelle de Jesús Malverde, surnommée le saint patron des narcos. Ce n'est pas une chapelle en tant que telle, mais un bâtiment rectangulaire aux murs vitrés qui abrite une multitude de petits autels colorés et d'offrandes dédiées à ce personnage mythique. À la lumière des bougies, on observe les bustes du fameux Malverde aux cheveux noirs luisants, à la petite moustache, la chemise blanche impeccable. Sous l'influence des narcos, le culte de ce Robin des Bois local, qui vécut à la fin du 19e siècle, s'est popularisé. Pour les prières qu'il aurait exaucées, des messages de remerciement sont gravés sur des plaques ou griffonnés sur des billets de banque accrochés au mur. Aujourd'hui, en plus des narcos, n'importe qui vénère Jesús Malverde, explique cette habitante de Culiacán. À l'extérieur de la chapelle, les vendeurs de souvenirs présentent le succès du moment, les statuettes à l'effigie d'El Chapo. Dans le sillage des nombreuses séries télévisées consacrées au baron de la drogue, il y aurait une véritable mode narco. C'est en tout cas ce que pense Ismael Bojorquez, le directeur de l'hebdomadaire Rio Doce, spécialisé dans les enquêtes sur la corruption et le narcotrafic.
Cette mode génère de l'argent. Netflix fait de l'argent avec ces séries. Et bien sûr, personne ne se demande comment éviter de contribuer à cette fascination pour les grandes figures du narcotrafic. Ils font de l'argent et cela ne leur importe guère d'être mêlés à cette fascination croissante, à la nouvelle notoriété des grands barons de la drogue ou au fait que les jeunes aspirent à devenir de futurs chapos.
Au Sinaloa, les jeunes sont facilement attirés par le style de vie criminel. À Culiacán, il existe un endroit qui en témoigne, les jardins d'Umaya, le cimetière connu comme étant celui des narcos. Des travées entières sont occupées par des mausolées fastueux et des temples tape à l'œil, et les dates montrent que la plupart des occupants sont morts alors qu'ils ne dépassaient pas la trentaine. C'est un cimetière de jeunes, un endroit paisible, mais qui reflète la violence de cette narcoculture.
Emmanuel Steele au Mexique pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup.